Alors bonjour à toutes et à tous. Je suis content de tous vous voir et je suis content de partager ce moment avec vous. J'ai une confession à vous faire. Ce matin, il y a eu une coupure de courant chez moi. Étant donné que j'avais fait mon prêche sur mon PC fixe, en PowerPoint et en Word, du coup j'ai pas pu récupérer mes documents. Donc vous voyez, ça sera le seul PowerPoint que vous verrez, et le passage aussi. Donc voilà, mais c'est pas grave parce que Dieu est souverain et Dieu est là, et l'Esprit de Dieu aussi va nous guider, va me guider aussi. Voilà, j'espère vraiment qu'on va pouvoir passer un moment ensemble autour de la parole de Dieu et qu'on va pouvoir regarder ça ensemble, donc ce passage. Avant de commencer, je vais prier pour mettre ce moment entre les mains du Seigneur. Père, on veut te remercier, Seigneur, parce que tu es souverain dans toutes choses. Et ouais, Seigneur, malgré les obstacles, Seigneur, malgré les épreuves qu'on a, Seigneur, on a cette foi en toi, Seigneur. On a cette volonté, Seigneur, de venir devant toi, Seigneur. De plier le genou devant ta parole, Seigneur. De nous humilier devant toi, Seigneur. Pour te demander que ton esprit vienne nous remplir. Vienne nous parler, Seigneur. Père, on te demande vraiment que durant cet après-midi, Seigneur, tu puisses venir dans nos cœurs, Seigneur, qu'on puisse se sonder également, Seigneur, personnellement, là où nous sommes, Seigneur. Ta parole est personnelle, ta parole touche nos cœurs à chacun, Seigneur, dans nos situations. Et Père, on veut vraiment se délivrer devant toi, Seigneur, être totalement sans nos masques, Seigneur, sans nos personnages, Seigneur, mais tels que nous sommes, Seigneur, nous regarder, que ta parole vienne nous toucher, Seigneur, que ta parole vienne nous corriger également, Seigneur, et que ta parole également nous remplisse et nous encourage pour vivre notre vie de disciple, Seigneur. Je te prie un son de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Donc j'espère que vous avez vos Bibles. Comme vous le savez, on vous dit souvent, mais en règle générale, on retient 10% de ce qu'on lit, 20% de ce qu'on entend et à peu près 30% de ce qu'on voit. Bon là, vous n'allez rien voir, mais donc il va falloir être encore deux fois plus attentif à ce qu'on va voir aujourd'hui par rapport à la parole. Donc on va continuer notre étude dans 2 Timothée, donc c'est la série qu'on étudie. Donc, 2 Timothée chapitre 2, à partir du verset 1 au verset 13, on l'a déjà lu deux fois, je ne vais pas le relire une troisième fois. Donc c'est la série qu'on étudie en ce moment à notre église, à Saint-Maur. On a étudié 1 Timothée à peu près il y a 2-3 mois, donc ça fait à peu près un mois et demi qu'on est sur 2 Timothée. On avait vu la semaine dernière l'encouragement que Paul donnait à Timothée à travers Renato. Et par rapport à 1 Timothée et 2 Timothée, en fait, il y a une différence particulière. 1 Timothée, c'est une lettre de Paul. Paul écrit à Timothée et il écrit dans un but bien précis. L'église d'Éphèse est l'église où Timothée est établi. Il y a beaucoup de problèmes dans cette église d'Éphèse. Paul a instauré Timothée dans cette église et il lui a dit « Je te fais confiance, je te mets dans cette église et tu vas travailler pour moi. Je te fais confiance, tu vas être le pasteur de cette église. » Il va arriver beaucoup de problèmes dans l'église d'Éphèse et Paul va dire à Timothée « fais attention à la discipline dans cette église, fais attention à la doctrine dans cette église, fais attention aux personnes qui sont en charge dans cette église. » Donc la première lettre de Paul à Timothée est assez pragmatique et assez thématique. La deuxième lettre de Paul à Timothée est dans un contexte différent. Paul, à ce moment-là, il est en prison. C'est la deuxième fois qu'il est en prison à Rome. Et quand il est en prison, il sait que ça va être fini pour lui, entre guillemets. Il sait qu'il ne va pas être délivré, il sait que sa fin est proche. La deuxième lettre de Paul à Timothée est beaucoup plus sincère et beaucoup plus personnelle, en fait. C'est un peu une lettre d'un maître à un disciple, une dernière lettre d'un maître à un disciple, parce que Paul n'écrira plus de lettres, hein, c'est la dernière lettre de Paul, ici. Et il va un peu livrer son cœur à Timothée, il va un peu l'encourager également, il va un peu le fortifier. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui à travers ce chapitre 2. Aujourd'hui, on va voir trois parties par rapport à ce texte. La première partie, un fondement essentiel. Un fondement essentiel de la vie chrétienne. Ce sera la première partie, le verset 1. Deuxième partie, du verset 8 au verset 13, ce sera trois vérités essentielles. Trois vérités essentielles à retenir. Et la troisième partie, ce sera quatre expressions de l'identité chrétienne. Donc, un fondement, trois vérités et quatre expressions de l'identité chrétienne. Alors rapidement, pour le fondement essentiel, On va lire le verset 1. « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » Verset 1. Timothée, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu le personnage, Timothée, c'est un jeune homme. On ne sait pas exactement quel âge il a. C'est un jeune adulte, je pense peut-être comme vous et moi. Enfin, peut-être comme moi, du coup. Mais c'est quelqu'un d'assez jeune, un jeune adulte. Et on peut voir déjà un peu ses caractéristiques. Verset 5, 2 Timothée chapitre 1, verset 5. « Je garde en effet le souvenir de, ta foi, de la foi sincère qui est en toi. Elle a d'abord habité ta grand-mère Loïs et ta mère Eunice, et je suis persuadé qu'elle habite aussi en toi. » Donc Paul nous dit, oui, je me rappelle, Timothée, tu es quelqu'un qui a une foi sincère. Ta grand-mère, ta mère aussi, étaient croyantes. Toi aussi, tu es croyant. Tu vis dans un foyer chrétien et tu as une foi sincère. Deuxième caractéristique, verset 6. C'est pourquoi je te rappelle, ranime la flamme du don de Dieu que tu as reçu lorsque j'ai posé mes mains sur toi. Timothée était connu aussi pour son don de prédicateur, son don d'enseignant. Et c'est pour ça aussi qu'il était à l'église d'Éphèse. L'église d'Éphèse, il y avait vraiment énormément de gens. Il y avait des vieux, il y avait des jeunes, un peu comme nous en fait. Et c'est Timothée qui a été choisi par Paul pour les enseigner. C'est Timothée qui a été choisi par Paul pour les diriger. Et l'Église était en proie à beaucoup de tensions. L'Église était en proie aux persécutions. Et c'est un jeune qui est là et qui les enseigne. Un peu, c'est comme si moi, je disais, bah voilà, maintenant, Église de Saint-Maur, je vais devenir votre pasteur. Tout va être sous contrôle, faites-moi confiance. Même s'il y a une coupure d'électricité ou quoi, je vais délivrer un message. Ne craignez pas. Je vais prendre en charge tous les aspects de l'Église. Et c'est ça qui est en train de se passer, en fait. Et comme je vous ai dit, quand Paul écrit cette lettre à Timothée, il est là et il se rend compte que Timothée, en fait, commence à douter. Timothée, il est depuis plusieurs années à l'Église d'Éphèse et il commence à douter, en fait, de son ministère. Il est à l'Église d'Éphèse et il se dit, mince, est-ce que j'ai les capacités ? Est-ce que les gens me reconnaissent comme un leader ? Est-ce que ce que Paul m'a confié, est-ce que je suis digne de pouvoir le transmettre aux gens. Et c'est là, en fait, c'est dans ce background-là que Timothée se trouve et qu'il se pose ces questions-là et que Paul arrive et qu'il lui dit au verset 1, « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » Le mot grec qui est utilisé pour fortifier est un mot assez particulier. Souvent, quand on se dit nous-mêmes fortifier, si je me dis « Ouais, vas-y, je vais me fortifier », je vais me dire « Bah, je vais aller à la salle de musculation et je vais me fortifier. » Enfin, je ne vais pas dire « je vais me fortifier », je vais dire « je vais me muscler ». Je vais à la salle, je vais me fortifier moi-même. Moi-même, je vais devenir plus fort. C'est ça un petit peu le rationnel qu'on a. Mais l'étymologie grecque du mot « fortifier », c'est que c'est un présent passif. Un présent passif, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est quelque chose de continuel, mais c'est quelque chose qui ne vient pas de nous. C'est quelque chose qui vient à travers nous et qui s'exprime à travers nous. Ce n'est pas nous-mêmes qui faisons la chose. Et donc là, l'apôtre Paul nous dit, toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Timothée, toi qui te poses des questions, toi qui es en plein doute, on le voit verset 8, hein, verset 7 et 8, en effet, chapitre 1, verset 7 et 8, en effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier. On voit Timothée, à ce moment-là, il est en plein doute, peut-être qu'il a honte de l'appel que Paul lui a donné, peut-être qu'il a doute de ses capacités, mais Paul lui dit « Fortifie-toi, ne te fortifie pas par toi-même, fortifie-toi à travers Jésus-Christ, à travers la grâce qui est en Jésus-Christ. » Peut-être que nous-mêmes, au jour d'aujourd'hui, on se regarde, peut-être que Dieu nous met un appel particulier à chacun, que ce soit à la louange, que ce soit à l'enseignement, que ce soit à l'accueil, que ce soit à la sono, dans plein de domaines différents. Dieu nous met des dons dans le cœur, on l'a vu à travers Timothée aussi, il a reçu le don, et Dieu nous donne des appels aussi. Mais des fois, comme Timothée, même si on est un chrétien qui a une foi sincère, même si nos parents sont des chrétiens, même si par exemple mon père est, même si je sais pas, mon père était pasteur ou hein, mon père était quelqu'un de bien, ça n'a pas eu d'impact sur moi, sur ma vie. Et il peut aussi m'arriver de douter dans ce que je fais. Et là, c'est exactement ce qui arrive à Timothée. Et Paul lui dit, prends confiance dans la grâce qui est en Jésus-Christ. La grâce qui est en Jésus-Christ, bien souvent, on prend la grâce qui est « Ok, moi j'étais pécheur au départ et Dieu m'a transformé. Dieu m'a pris tel que j'étais dans mon péché et il m'a rendu juste. Ça, c'est la grâce de Dieu. Mais la grâce de Dieu s'exprime aussi à travers ce qu'on peut donner. Bien souvent, on dit la grâce, c'est recevoir quelque chose. J'ai reçu la grâce. J'ai reçu le pardon de mes péchés. Ok, bien sûr. Mais Dieu t'a aussi donné la grâce de pouvoir donner. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut qu'on ait conscience, c'est que Dieu nous a donné la grâce de donner. Typiquement, Timothée ici est appelé aussi à donner. Nous aussi, frères et sœurs, nous sommes aussi appelés à donner. Parce que ce que nous recevons de Dieu, les dons aussi que Timothée a reçus de Dieu, il est appelé aussi à les donner. Et ça, c'est quelque chose de très important. Bien souvent, nous disons, ok, nous sommes des chrétiens, et voilà, on a reçu la grâce, on est pardonné, on va vivre notre vie de chrétien. Mais lorsqu'on est renouvelé, lorsqu'on est transformé, lorsqu'on est né de nouveau, Dieu place aussi des dons en nous qu'on doit rechercher, et Dieu nous demande aussi de les donner, donner ces dons. Il y a quelque chose que j'ai appris par rapport à recevoir et donner. Je pense que quand j'étais jeune, moi j'étais quelqu'un qui aimait beaucoup recevoir. J'étais le plus petit de ma famille, j'étais un peu le gâté, et j'étais content en fait, parce que je pouvais recevoir. Ma mère me demandait, est-ce que Mickaël, tu voudrais un petit frère ou une petite sœur? Moi j'ai fait non. J'ai pas dit non, j'ai dit ouais non, maman t'es âgée, peut-être que c'est dangereux. Mais non, en fait ce que je voulais pas, c'était qu'il y ait quelqu'un de plus petit que moi, qui puisse après recevoir plus que moi, parce que le plus petit est le plus gâté. Vous voyez un petit peu la perversité de mon cœur. Mais est-ce que je me suis rendu compte, en fait, au fur et à mesure, Actes chapitre 20, verset 35, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Frères et sœurs, nous avons reçu énormément de la part de Dieu. Si vous êtes en Christ au jour d'aujourd'hui, si vous avez accepté Jésus-Christ, si vous avez reçu la grâce de Dieu dans votre vie, qui a transformé votre vie, vous avez reçu énormément. Mais si Paul demande aussi, et Dieu nous demande aussi de donner, à Timothée aussi, utilise ton don. Fortifie-toi dans la grâce pour utiliser ce don-là. Ne le laisse pas là, ne le laisse pas, et ne laisse pas tes doutes totalement te paralyser dans ce que tu as à faire, parce que c'est ça Timothée. Timothée est paralysé par le doute et par les questions. Mais reconnais ta faiblesse, reconnais la situation dans laquelle tu es. Très bien, je suis faible, très bien, peut-être Dieu m'appelle à faire ça, mais je n'ai pas les capacités. Mais encore une fois, fais appel à la grâce. Ce n'est pas toi qui fais, mais c'est Dieu qui fait. La grâce n'est pas une question de facilité, la grâce est une question de possibilité. La grâce nous rend les choses possibles. Mais les choses ne sont pas faciles. Comme on peut le voir avec Timothée et avec Paul, les choses ne sont pas faciles. Mais les choses sont possibles avec la grâce de Dieu. Dieu nous demande aussi de recevoir sa grâce et de donner également. Donc ça, c'était mon premier point. Recevoir et donner. Revenir à la grâce pour pouvoir vivre ce que Dieu nous appelle à faire, tout comme Timothée. Deuxième point, donc un fondement essentiel, la grâce. Deuxième point, trois vérités à garder dans nos cœurs en tant que chrétiens. On va passer, donc là on a fait le verset 1, on va passer directement au verset 8. Les vérités à garder, à souvenir. Verset 8, souviens-toi de Jésus, le Messie ressuscité, issu de la descendance de David, conformément à l'évangile que je prêche. Donc il lui dit, voilà, Timothée, viens puiser dans la grâce. Ce que tu as à faire, viens puiser dans la grâce. Verset 8, il dit, souviens-toi de quoi ? Du Messie ressuscité, issu de la descendance de David. Souviens-toi du Messie, de Jésus-Christ ressuscité, issu de la descendance de David. Donc le premier point, la première vérité, c'est Jésus-Christ ressuscité, issu de la descendance de David. Je pense que Jésus-Christ, ici, tout le monde connaît qui est Jésus-Christ. Tout le monde a une connaissance de Jésus-Christ plus ou moins grande, on va dire. Mais tout le monde connaît Jésus-Christ, j'espère. Et je pense que même si, quand on va évangéliser ou même quand on discute avec nos collègues, je pense que tout le monde connaît Jésus-Christ. C'est un personnage connu, historique. Mais je pense que Jésus-Christ est plus connu pour sa mort que pour sa vie. Quand on parle de Jésus-Christ, on peut se dire, oui, d'accord, les chrétiens, vous avez une philosophie de vie. Oui, d'accord, les chrétiens, vous dites, il faut s'aimer les uns les autres. Oui, les chrétiens, vous pardonnez les uns les autres. C'est bien. Ça fait que quand on vit dans une société, les gens sont aimables, les gens sont pleins d'amour. Mais le plus important, c'est que Jésus-Christ est mort. Jésus-Christ est mort et pas pour rien. Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Jésus-Christ est mort pour nous. Et quand il est mort, une fois qu'il est mort pour nous, il est aussi ressuscité. Qu'est-ce que ça veut dire quand il ressuscite ? Ça veut dire que la mort physique n'a pas d'emprise sur Jésus-Christ. Il est mort et ressuscité. La mort physique et la condamnation qui s'est abattue sur Jésus-Christ n'a pas d'emprise sur lui. C'est quelque chose d'important quand même pour nous. On va regarder dans Matthieu chapitre 10, verset 28. Matthieu chapitre 10, verset 28, qui est écrit « Ne redoutez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Redoutez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps en enfer. » Dans ce verset, on voit bien que Jésus-Christ a vaincu la mort physique. Jésus-Christ est revenu des morts et il est ressuscité et il est vivant. Et nous, et là, ce qu'il dit à Timothée, c'est « Regarde, Jésus-Christ est ressuscité. Tout ce qui peut arriver à toi, toutes les épreuves, toutes les choses, et même la mort physique, n'aie pas peur. N'aie pas peur de toutes ces choses-là, Timothée, parce que Jésus-Christ est mort et ressuscité. Il n'y a pas d'emprise, la mort n'a pas d'emprise. Redoute pas les hommes, redoute pas la société qui peuvent te faire mourir physiquement, mais redoute ceux qui peuvent faire périr ton âme. Redoute plutôt Jésus-Christ au lieu de toutes les autres choses. » Ça, c'est la première chose. Jésus-Christ ressuscité et Jésus-Christ aussi, verset 8, issu de la descendance de David. Qu'est-ce qui est important ici, issu de la descendance de David? Pourquoi est-ce que Paul ici mentionne la descendance de David? La descendance de David correspond aussi à la lignée royale. On peut voir dans Matthieu toute la généalogie de Jésus-Christ. Comment est-ce que toute la lignée, en fait, tous les patriarches et toutes les personnes qui sont citées dans la Bible, en fait, arrivent à David. Et ensuite, de David arrive à Jésus-Christ. Et la descendance de David est importante parce qu'il y a cette notion de royauté. Jésus-Christ est roi. Jésus-Christ règne éternellement. On peut lire dans Luc chapitre 1, versets 31 à 33. Luc chapitre 1, versets 31 à 33. Je vais vous le lire. Voici que tu seras enceinte, tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il règnera sur la famille de Jacob éternellement, son règne n'aura pas de fin. Vous voyez ici, on nous rappelle qu'il descendra de David et qu'il règnera éternellement. Jésus-Christ mort et ressuscité et descend de David à cette royauté également. Et ça parle beaucoup aux Juifs. Parce que Jésus-Christ est roi, en fait. Cette personne qui est morte, c'est comme si moi je meurs et je ressuscite. Enfin, si moi je ressuscite, les gens, c'est quoi l'intérêt? Je dis, ok, Michael, il est ressuscité, mais c'est un vieux mec, Michael. C'est pas grave s'il est ressuscité. Mais ici, c'est dans les prophéties, c'est Jésus-Christ, le roi qui a annoncé qu'il va ressusciter et qu'il va vivre éternellement. Donc Jésus-Christ, mort et ressuscité, il a vaincu la mort, mais il règne aussi éternellement. Ça, c'est la première vérité aussi à se rappeler, c'est que Jésus-Christ a vaincu la mort. Donc, frères et sœurs, n'ayons pas peur de ce que les attaques terrestres peuvent nous faire, mais ayons plutôt peur de la mort éternelle qui peut avoir lieu si nous n'acceptons pas Jésus-Christ. Et également, Jésus-Christ règne éternellement. Jésus-Christ est le roi qui a annoncé, Jésus-Christ règne éternellement. Deuxième vérité, on passe au verset 9, « Et pour lequel je souffre au point d'être enchaîné comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas enchaînée. » Là, on arrive à une deuxième vérité, qui est que la parole de Dieu ne peut pas être enchaînée. La parole de Dieu, frères et sœurs, ce que nous avons, cette Bible qui a été transmise depuis 2000 ans, ne peut pas être enchaînée. Paul, dans 2 Corinthiens chapitre 11, on peut voir tout ce qu'il a souffert. On peut voir l'emprisonnement qu'il a eu. On peut voir toutes les souffrances qu'il a vécues. Et là encore, il le dit à Timothée, pour lequel je souffre. Mes frères et sœurs, n'ayons pas de crainte, la parole de Dieu ne peut pas être enchaînée. On va lire dans Philippiens chapitre 1, versets 12 à 14. Donc Philippiens au chapitre 1. Philippiens chapitre 1, versets 12 à 14. Je désire que vous le sachiez, frères et sœurs, ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, Dans tout le prétoire et partout ailleurs, personne n'ignore que c'est pour Christ que je suis en prison. Et la plupart des frères et sœurs encouragés dans le Seigneur par mes chaînes ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Vous voyez, dans Philippiens, il dit « Frères et sœurs, je suis en prison là, mais c'est pas grave. Même si physiquement je suis enchaîné, la parole de Dieu continue à grandir, la parole de Dieu continue à se propager. » On peut le voir dans l'histoire de l'Église, depuis que Jésus-Christ est arrivé, même, et dans les actes, la manière de laquelle l'Évangile s'est propagé au moment des persécutions, à partir de Actes 8, et on peut voir aussi dans... Matthieu chapitre 10, au verset 28. Matthieu chapitre 10, au verset 28. Matthieu chapitre 24, verset 14, pardon. Matthieu chapitre 24, au verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Cette notion de propagation de l'évangile et cette notion de que la parole de Dieu n'est pas enchaînée est nécessaire pour nous en tant que chrétiens parce que nous avons l'assurance que la parole de Dieu continue à être transmise. Nous avons l'assurance que la parole de Dieu continue à être propagée malgré les obstacles, malgré les difficultés, malgré les épreuves. La parole de Dieu est au-delà de tout ça. Pour prendre un exemple plus parlant, vu que beaucoup de Chinois sont ici, enfin la majorité en tout cas des gens ici sont Chinois, ça fait à peu près 200 ans que la parole de Dieu a été importée en Chine, entre guillemets. Ça fait à peu près plus de 200 ans que les premiers missionnaires chinois sont arrivés. À peu près. On compte 20 000 missionnaires environ qui ont été envoyés depuis le début. Depuis le début du mouvement missionnaire en Chine, 20 000 missionnaires ont été envoyés pour convertir la Chine. Au jour d'aujourd'hui, officiellement, on compte à peu près 60 à 70 millions de Chinois officiels. Les chiffres sont peut-être beaucoup plus grands. Ce qui s'est passé en octobre dernier, en 2015, il y a une convention liée à la convention de Lausanne. En fait, c'est un mouvement évangélique où 900 représentants chinois se sont rassemblés parce qu'ils voulaient payer la dette évangélique de la Chine. Qu'est-ce que ça veut dire payer la dette évangélique de la Chine ? Ils se sont dit, voilà, depuis 200 ans, peut-être plus, 20 000 missionnaires ont été envoyés en Chine. Maintenant, nous voulons payer notre dette et la Chine veut envoyer 20 000 missionnaires d'ici 2030 à travers le monde entier. Et ce mouvement-là a été possible et cette prise de conscience-là a été possible parce que je pense que vous êtes tous au courant des persécutions qu'il y a eu en Chine. Les persécutions qu'il y a eu en Chine depuis la révolution culturelle ont favorisé la propagation de l'évangile en Chine, dans les églises de maison, etc. Et s'il n'y avait pas eu ces persécutions, s'il n'y avait pas eu ces souffrances-là, il n'y aurait pas eu autant de chrétiens en Chine. En 2030, on estime que la Chine sera le premier pays au monde chrétien, en dépassant les États-Unis. À peu près 150 à 160 millions de Chinois officiels se seront dit chrétiens, 10% de la population chinoise. Et ça, encore une fois, ce n'est pas grâce au fait qu'on soit là le dimanche et que les gens écoutent, mais c'est parce que les gens sont persécutés et les gens ont foi et les gens se raccrochent à la parole de Dieu et se raccrochent à la grâce de Dieu pour propager l'évangile. C'est ce que Paul dit ici. Je peux être enchaîné, je peux être en prison, ne t'inquiète pas. L'avancée de l'évangile sera là. Dieu est au contrôle de toutes choses. Dernière vérité, à partir du verset 11 au verset 13, cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, lui reste fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Versets 11 à 13, ici Paul dit, ok, Timothée, première partie, Timothée, il faut que tu te ressaisisses. Ok ? Voilà, on t'a donné un rôle, on a confiance en toi. Peut-être que tu doutes, mais ressaisis-toi, Timothée. Aie confiance dans la grâce en Jésus-Christ. Je te rappelle, Jésus-Christ est mort et ressuscité. Les épreuves, les souffrances n'ont pas d'emprise sur toi. Deuxièmement, je te rappelle que quoi qu'il arrive, même si tu es emprisonné, même si tu arrives quelque chose, l'œuvre de Dieu va continuer. Troisièmement, cette parole est certaine, et là c'est vraiment une promesse que Paul rappelle à Timothée. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Promesse de victoire. Donc c'est ce verset 11 au verset 12. Fin du verset 12, verset 13. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, lui reste fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Là, c'est des promesses de perdition. Il résume en fait ce qui a été dit auparavant. Il dit, Jésus-Christ est mort et ressuscité, toi aussi, si tu crois en lui. Rappelle-toi, cette parole est certaine. Garde ça en tête. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec Jésus-Christ, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Sois-en sûr, Timothée. Garde cette promesse avec toi. Par contre, si tu le renies, si tu te détournes, lui aussi, Dieu se détournera. Et après, le verset 13, je pense que beaucoup de personnes même moi y compris, hein, le traduisent et l'interprètent assez mal. Si nous sommes infidèles, lui reste fidèle car il ne peut se renier lui-même. Moi, personnellement, je l'utilisais beaucoup. Ouais, tu sais, Dieu, il est amour. Si tu es infidèle, Dieu, il reste fidèle, il t'attend. Et il peut se renier lui-même, donc il est fidèle. On l'a chanté tout à l'heure, Dieu est fidèle. Mais Dieu est fidèle aussi dans sa justice. Dieu est fidèle aussi dans sa perfection. Et si nous renions Dieu, Dieu reste fidèle. Et il va rester fidèle à nous, à nous renier aussi, parce que nous l'aurons renié. Donc c'est vraiment à double sens ici, ce que Paul nous rappelle, c'est que si nous, voilà, promesse de victoire, promesse de perdition, si nous sommes accrochés à Jésus-Christ, si nous avons la grâce de Jésus-Christ en nous, la vie éternelle et la victoire est avec nous. Mais si vous voulez renier Jésus-Christ, si vous voulez renier Dieu, ne soyez pas étonnés, Dieu est fidèle aussi. À travers sa parole et à travers sa justice, il vous reniera aussi. Voilà, il y a trois vérités qu'on a vues. Jésus-Christ est vivant et ressuscité et il règne. La parole de Dieu ne peut pas être enchaînée. Et troisième vie, Dieu est fidèle aussi bien dans la victoire que dans la perdition de l'homme. Donc une fois qu'on a vu ça, on va passer maintenant du verset 2 au verset 7. Verset 2 au verset 7, c'est les quatre expressions de l'identité chrétienne. Donc on a vu un fondement, la grâce, trois vérités, et maintenant les quatre identités de la vie chrétienne. Le thème de la prédication aujourd'hui, c'était enseignant, soldat, athlète, cultivateur, fortifions-nous et travaillons. Et on va voir maintenant ces quatre personnages qui sont décrits à partir du verset 2. Le premier personnage, c'est le professeur, c'est l'enseignant. Ici, je pense que Sylvia est la seule enseignante ici, parmi nous. Et Timothée, oh pardon. Timothée. Et quand on parle d'enseignement, déjà, il faut enseigner quelque chose. Il y a une matière à enseigner. Ici, la matière, c'est simple et c'est complexe. En même temps, c'est la Bible. Et quand on parle d'enseignement aussi, il y a quelque chose qu'il faut garder à l'esprit quand il nous parle ici, c'est ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes fidèles qui soient capables de l'enseigner à d'autres. Donc, Paul a enseigné à Timothée. Timothée va enseigner à d'autres. Et d'autres sont appelés à enseigner à Timothée. Vous voyez ? Il y a vraiment cette ligne, en fait. Cette chaîne qui se suit. Bien souvent, dans nos églises ou même dans nos cours, quand on apprend quelque chose, il y a un step. C'est-à-dire, OK, il y a un enseignant et il enseigne. Et voilà, par exemple, même des fois, moi par exemple, quand j'étais à l'école du dimanche, Viensai, c'était mon professeur, il m'enseignait. Et après, il n'y avait rien d'autre. Il n'y avait pas ce mouvement, entre guillemets, de pérennité dans l'enseignement. Et ça, c'est ce que Paul demande à Timothée, c'est que n'oublie pas que quand je t'enseigne, le but, ce n'est pas juste que tu sois enseigné, le but, ce n'est pas juste que tu aies des connaissances, mais c'est que ça continue aussi. ce que toi tu puisses enseigner à d'autres qui vont enseigner encore à d'autres. Et ça, c'est très important. Bien souvent, on est là dans nos églises, on dit ouais, regarde lui, c'est... tu connais Timothy Keller, tu connais John Piper, tu connais. Enfin, pour certains, c'est ça, et pour d'autres, c'est tu connais Joel Osteen, tu connais Joyce Meyer, tu connais. Mais chacun a ses gourous, en fait. Chacun a ses personnes, et tu dis waouh, lui, c'est le super enseignant. Et on place une confiance, une grande confiance dans le super enseignant. On dit ouais, regarde, j'ai appris ça. So what? Qu'est-ce qui se passe après? Est-ce que tu gardes cet enseignement ou est-ce que tu en fais quelque chose? L'enseignant ici, il y a deux choses essentielles. La transmission, premièrement, c'est ça qu'on est en train de parler. Qu'est-ce que tu fais de cet enseignement-là? Ici, Paul parle à Timothée. Et vous dites, oui, mais Timothée, c'était un mec qui avait un don dans le verset 6, on l'a vu. Mais c'est normal, il a amené à le transmettre. Mes frères et sœurs, je pense qu'un jour ou l'autre, et je l'espère, tous, on sera mari d'une femme, ou femme d'un mari. Marie, enseignez vos femmes dans 1 Timothée. Les femmes, j'espère tous, peut-être que vous serez mères d'enfants, et les mères aussi seront amenées aussi à enseigner leurs enfants. Frères et sœurs, vous aurez tous des frères et des sœurs qui seront peut-être dans le besoin, des frères et sœurs qui seront en manque, enfin, qui auront besoin de votre aide à un moment donné, de vos conseils. Quels sont les meilleurs conseils que vous pouvez donner à part ceux de la parole de Dieu? Les conseils de Dieu qui sont dans la Bible. Frères et sœurs, l'enseignement n'est pas réservé à une élite, parce que c'est la parole de Dieu en fait, et la transmission de la parole de Dieu est aussi ouverte à tous. Et frères et sœurs, je pense que ce qui est important aussi, dans Jacques, on peut voir, Jacques chapitre 1, on a parlé de transmission, l'importance de la transmission dans l'enseignement, et on va parler maintenant d'exemplarité. Jacques chapitre 1, versets 22 et 23. Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Oh là 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 là, oh regarde, il réfléchit bien, oh là là, regarde, c'est trop beau comment il a décortiqué toute la théologie de l'Église, etc. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Je regarde la parole de Dieu, je fais « Waouh, j'avoue, peut-être qu'il y a des choses qui ne vont pas dans ma vie. Moi, j'avoue, peut-être qu'il y a des choses que j'ai comprises sur moi. » Mais si la parole de Dieu n'est pas appliquée, si vous ne la mettez pas en pratique, c'est comme si, en fait, vous voyez votre image et notre image pécheresse, frères et sœurs, c'est quelque chose de certain. Nous ne sommes pas parfaits, pas encore parfaits. Et si nous ne la mettons pas en pratique, c'est comme si on se détournait de cette image. Et Dieu nous parle et nous disons « Non, Seigneur, je n'ai pas besoin de ça. » Un autre verset encore plus fort, enfin moi en tout cas qui m'a fait « Waouh !» J'ai fait « C'est chaud pour moi. » Jacques chapitre 4 au verset 17. Jacques chapitre 4, verset 17, qui dit « Si donc quelqu'un sait faire ce qui est bien et ne le fait pas, il commet un péché. » Si donc quelqu'un sait faire ce qui est bien et ne le fait pas, il commet un péché. Souvent on dit « Oui, le péché, c'est quelque chose que je fais de mal. Oh, je mens, je fais un péché. Oh, je vole, je fais un péché. Oh, je tue, je fais un péché. » Si je vois quelque chose de mal et que je dis rien, si un frère peut-être est dans le besoin et je dis rien, je pourrais l'aider, mais je dis rien, je ne fais pas ce que je sais que je devrais faire, alors je commets aussi un péché, c'est un péché d'omission. Et ici, la parole est claire. Si nous savons des choses, mais que nous ne les mettons pas en pratique, que nous ne le faisons pas, alors c'est considéré comme un péché. Et cette exemplarité et cette pratique est d'autant plus importante qu'elle est centrale. Par rapport à notre témoignage de chrétien. C'est vraiment extrêmement important. D'accord, on prêche l'évangile, d'accord, on parle de Jésus-Christ, mais quel est l'impact de Jésus-Christ dans ma vie si je ne le vis pas, si je n'ai pas cette exemplarité-là? Quel est le cachet, quelle est l'importance de la parole par rapport à ça? Donc voilà, premièrement, l'enseignant. L'enseignant doit pouvoir transmettre Et l'enseignant doit être exemplaire dans ce qu'il a, dans la vie qu'il vit. Deuxième identité, le soldat. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Alors, je ne sais pas si quelqu'un a fait son service militaire ici. Personne? Non, on est trop jeune. Pas assez de personnes. Yada, tu n'as pas fait? Personne n'a fait son service militaire ici. Très bien. Frères et sœurs, si Paul ici parle de soldats et parle « souffre avec moi », il y a une notion de guerre. Frères et sœurs, ici nous sommes en guerre. On le dirait pas, on dirait pas qu'on est en guerre. Mais frères et sœurs, Éphésiens chapitre 6, au verset 12. Éphésiens chapitre 6, au verset 12. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Et tout de suite après, Paul nous décrit l'armure du chrétien, parce qu'il est en guerre. Et juste avant, il dit, voilà, frères et sœurs, vous êtes en guerre. On ne dirait pas, mais vous êtes en guerre. Et vous êtes en guerre contre Satan, contre les autorités de ce monde, contre le prince des ténèbres, mais vous êtes en guerre aussi contre vous-même. Vous êtes en guerre aussi contre vous-même. Jacques chapitre 1. Alors Jacques chapitre 1. Verset 13 à 15. Jacques chapitre 1, verset 13 à 15. Donc on a dit qu'on était en guerre contre les puissance de ce monde, contre les ténèbres. Jacques chapitre 1, verset 13 à 15. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente. » Car Dieu ne peut pas être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Puis, le désir, lorsqu'il est encouragé, donne naissance au péché et le péché, parvenu à son plein développement, a pour fruit la mort. Vous voyez ce qu'il dit, Jacques, là ? Il dit « Ok, tu te fais tenter par ça. » Par Satan, dis pas que c'est Dieu qui te laisse tenter. Dis pas même que c'est Satan des fois qui te tente, mais regarde ici, c'est ton propre désir. Ton propre désir qui donne naissance au péché et le péché parvenu à son plein développement a pour fruit la mort. Donc nous aussi, frères et sœurs, nous avons nos propres désirs, nous avons notre nature pécheresse qui nous pousse aussi à pécher. Nous sommes en guerre contre le monde, contre Satan et contre nous-mêmes aussi. Et qu'est-ce qu'il dit ici, Paul à Timothée ? Donc, souffre avec moi. Je ne vais pas revenir sur la souffrance parce que c'est... Enfin, Philippiens 1, 29, Philippiens 1, 12 à 14, il y a plein de versets sur la souffrance. Mais moi, j'ai envie de m'attarder sur une autre chose aujourd'hui. C'est la suite. Donc, souffre avec moi comme un bon soldat en Christ. Aucun soldat en service ne s'embarrasse des affaires de la vie. Aucun soldat en Christ ne s'embarrasse des affaires de la vie. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Aucun soldat en Christ ne s'embarrasse des affaires de la vie. Aujourd'hui, quand il y a eu la coupure de courant, j'étais là et je me suis dit, ouais, il faut que je... En fait, j'ai fait un jeûne technologique aujourd'hui. Quand il n'y a pas de courant, on n'a accès à rien. Je me suis dit, ah oui, mince, ça se trouve, je peux aller checker sur Internet certaines références, etc., par rapport à mon prêche. Je me suis dit, mais non, mais en fait... Ta box, elle est connectée à l'électricité. Et du coup, si tu n'as pas d'électricité, tu n'as pas de box. Donc, tu n'as pas Internet. Toutes mes habitudes étaient changées. Le PC, quoi. Plus de PC. Donc, plus de PC, plus de vie, entre guillemets, en fait. J'étais là et je me disais, mince, mais qu'est-ce que je vais faire ? Comment je vais checker mes mails ? Comment je vais lire des articles ? Comment je vais regarder des vidéos ? C'est fini, tu ne fais plus rien, Michael. Tu ne fais plus rien. Ça tombait bien, je devais préparer mon prêche. Mais tu ne fais plus rien. Et quand on parle ne t'embarrasse pas des affaires de la vie, je pense que d'un côté aussi, il y a cette chose-là. Vous voyez un soldat, Si tu voyais un soldat, nous sommes des soldats, nous sommes des bons soldats en plus, hein, ce qu'il dit, Paul ici, comme un bon soldat. Nous sommes des bons soldats. Est-ce qu'un bon soldat va s'embarrasser des petites choses de la vie? Est-ce qu'un bon soldat va... Pendant, il est sur le front, en première ligne, il y a la guerre. Il y a la guerre contre Satan, il y a la guerre contre nous-mêmes aussi. Est-ce qu'il va être là à checker ses Facebook, WhatsApp, WeChat, Snapchat, enfin ouais, bref, tout ce que vous voulez. Vous voyez? Est-ce qu'il va être là? Le mec, c'est la guerre, sa vie est en jeu, et il va checker ses trucs. Enfin, est-ce que... Ou il va jouer, ou je sais pas, hier j'ai joué, en plus, hier soir j'ai joué. Je le confesse. Mais est-ce qu'il va faire ces choses-là? Ou est-ce qu'il y a des choses qui sont plus importantes que ça? Est-ce qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus importantes que ça? Ne t'embarrasse pas des affaires de la vie. Il y a des choses qui ne sont pas importantes par rapport à notre combat spirituel. Phrase et sœur, je ne dis pas que toutes ces choses sont mauvaises, bien entendu. Mais il y a quelque chose qui... Il y a une phrase dite par un philosophe qui s'appelle Rémi Gaillard, je ne sais pas si vous connaissez, qui moi m'est restée en tête et qui dit « C'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. » Mais c'est vrai. Très sincèrement, frères et sœurs, moi, ce matin, c'était un peu comme si je faisais un step back sur mes habitudes et je disais, ah oui, mais en fait, tout ça, est-ce que c'est important? Qu'est-ce que ça m'apporte réellement? Frères et sœurs, il y a une vérité, c'est que nous devenons ce que nous faisons. Nous devenons ce que nous faisons. Donc, quelles sont les priorités de notre vie? Quelles sont les affaires de notre vie et quelles ne sont pas les affaires de notre vie? Quel est le temps qu'on investit dedans? Et quoi qu'il arrive, c'est logique et c'est mathématique, il va y avoir des conséquences. Est-ce que vous voulez investir sur les choses célestes ou est-ce que vous voulez investir sur les choses terrestres? C'est ça la question. Soldat, bon soldat, ne t'embarrasse pas des petites affaires de la vie, embarrasse-toi des choses célestes et qui vont durer. Investis dans ta relation avec Dieu, investis dans la parole de Dieu pour que tu puisses construire des choses. C'est ce que Dieu attend de nous, c'est ce que Dieu attend de ses soldats. Et dernière chose par rapport au soldat, il veut plaire à celui qui l'a recruté. Il veut plaire à celui qui l'a recruté. Je pense que beaucoup de monde ici travaille, vous avez un boss. Vous avez un boss dans votre travail et je pense que normalement vous voulez plaire à votre boss. Il vous donne des choses à faire, vous voulez les faire bien. Oui boss, regarde, j'ai fait ça, nanana. Enfin bref, je pense que c'est humain de vouloir plaire à son boss. Imaginez les relations dans une armée, un général. Le général des armées. Quelle est la relation avec nous, un simple soldat? Le général, quand il dit quelque chose, tu le fais. Tu le fais et tu fermes, enfin, tu te tais. Tu te tais et tu fais ce que le général te demande. Ah, mais en fait, général, je pense que peut-être c'est quelque chose, ça, c'est mieux. Ah, j'ai réfléchi. D'après mon expérience, j'ai fait des calculs et tout. Ah, je pense que ça, c'est mieux. Non, un général, il est là et il te dit, fais ça. Et tu le fais, tu ne parles pas, tu obéis. Et Dieu ici, c'est notre général. Le général, peut-être des fois, il a un plan que toi, tu ne connais pas. Le général, il a une stratégie que toi, tu ne comprends pas. Le général, il veut aussi ton bien, il veut la victoire, et il a la victoire en tes mains. Mais il veut que tu lui obéisses. Même si tu ne sais pas pourquoi est-ce que tu dois aller là-bas tout seul et faire un truc et souffrir, le général t'a dit d'aller là-bas tout seul et d'aller souffrir. Tu ne comprends pas, mais tu as foi en ce général parce qu'il va t'amener à la victoire et tu obéis à ce général. Tu ne rouspètes même pas. Vous avez peut-être compris l'analogie que je voulais faire entre le général et Dieu. Est-ce que vous avez confiance, est-ce que vous avez cette foi et cette assurance que Dieu aussi est ce général-là qui nous mène dans une bataille, qui a la victoire et qui connaît tout. Et quand il vous dit quelque chose, quand il vous dit de lire la Bible, quand il vous dit d'avoir cette relation avec vous, est-ce que vous respectez, vous dites « Ah, mais Seigneur, peut-être que nanani nana » ou est-ce que vous avez une foi absolue dans ce général? Première chose, donc, on a vu l'enseignement, exemplarité et transmission. Deuxième chose, le soldat. Donc le soldat qui... ne s'embarrasse pas des affaires de la vie, qui sait quelles sont ses priorités et qui veut plaire à son général. Troisième chose, l'athlète. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas lutté en respectant les règles. Bon, ça c'est, je pense que c'est la, l'image que j'aime le plus. Merci Seigneur, parce que je suis tombé sur ce passage. Mais je vais pas m'étendre dessus, parce que je pourrais parler des heures sur l'athlète, je pense. Mais ici, on va vraiment se concentrer sur un point précis, c'est respecter les règles. Respecter les règles. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas respecté les règles. Il faut savoir que dans l'Antiquité, quand on parlait de respecter les règles, il y avait deux choses. Respecter les règles, c'est quand un athlète voulait, par exemple, comme dans les Jeux Olympiques, quand un athlète voulait s'inscrire à un jeu, il devait respecter trois règles. Première règle, être né grec. Deuxième règle, s'entraîner au moins 10 mois. 10 mois. Troisième règle, jurer devant une statue de Zeus que tu as bien fait cet entraînement-là et que tu veux gagner et que tu es là pour gagner. Ça, c'est les trois règles à respecter pour concourir à toute épreuve. Être né grec, s'entraîner 10 mois et jurer devant une statue de Zeus que j'y vais et que je veux gagner. Et frères et sœurs, c'est un peu aussi ce que nous sommes appelés à faire lorsque nous rentrons dans ce combat, lorsque nous rentrons dans la vie chrétienne. Nous devons être nés, pas grecs, mais nés en Christ. Nous préparer aussi, peut-être 10 mois, mais non, en fait, ce sera toute notre vie qu'on se préparera en Christ. Et jurer, non pas devant une statue, mais jurer, entre guillemets, plaider allégeance à notre Seigneur. Dire, ok, toi, mon Dieu, je veux concourir pour toi. Je veux courir cette course, je veux être un athlète qui suit les règles. Deuxième chose de respecter les règles, c'est la première chose, c'est avant de concourir, on respecte ces règles-là pour concourir. Deuxième chose, lorsqu'on concourt, il faut respecter les règles. Et on parle ici aussi de discipline. Discipline dans le jeu et discipline de vie aussi. Je pense que la maturité d'un chrétien, on dit souvent la maturité d'un chrétien se mesure à la capacité qu'il a à se repentir de ses péchés. Et je pense aussi que la maturité d'un chrétien se mesure à la discipline qu'il a en tant que chrétien et dans sa relation personnelle avec Dieu. 1 Corinthiens 9 parle énormément reprend en fait les points de l'athlète, la course. Et ici, dans 1 Corinthiens, au verset 27, je vais vous le lire. Au contraire, je traite durement mon corps et je le discipline, de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. Au contraire, je traite durement mon corps et je le discipline, de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. Tout avant, en fait, il parle de la course. Tout avant, il parle de remporter la course. Et après, Paul dit, au contraire, je traite durement mon corps et je le discipline de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. Quand on parle de discipline, ça fait souvent peur. Oui, mais on est dans une relation de grâce et d'amour avec Dieu. Pourquoi est-ce que je devrais faire des choses? Pourquoi est-ce que je devrais être discipliné? Pourquoi est-ce que je devrais répondre à certaines cases, etc., pour suivre Dieu? Mais je pense que la discipline nous permet de mieux comprendre Dieu, et la discipline nous permet de nous rapprocher de Dieu. La discipline, c'est quoi? C'est de se dire, ok, moi j'ai envie de faire ça, Dieu, tu veux que je fasse ça. Je vais faire ce que Dieu, toi, tu veux avant. Avant même ce que je veux faire, je vais faire toi ce que tu veux que je fasse, et je vais te faire confiance. Et dans Psaume 1, on peut voir, heureux l'homme qui médite la parole de Dieu jour et nuit, et qui prend plaisir aussi dans les lois de l'Éternel. Quand on parle de discipline, souvent, on ne parle pas de plaisir, mais frères et sœurs, quand on a cette discipline aussi dans notre vie spirituelle, dans notre relation avec Dieu, il y a aussi le plaisir qui en découle, le plaisir d'être en relation avec Dieu, le plaisir de voir l'action de Dieu dans nos vies, de voir la puissance et la pertinence de la parole de Dieu dans nos vies. Et c'est ça qui nous a rappelé ici aussi. Frères et sœurs, soyons disciplinés, n'ayons pas peur aussi de nous discipliner nous-mêmes par rapport à notre relation avec Dieu. À combien plus forte raison devons-nous nous discipliner? Dernière image, pour terminer. Verset 6, le cultivateur qui travaille dur doit être le premier à récolter les fruits. Le cultivateur qui travaille dur doit être le premier à récolter les fruits. Alors quand on parle de cultivateur, Moi, je pense à, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez l'émission L'amour est dans le pré. En gros, c'est une émission où c'est des agriculteurs qui vont trouver, qui vont essayer, et en fait, l'émission est censée leur trouver l'amour. Et c'est des agriculteurs, tous sont des agriculteurs ou des agricultrices. Pourquoi je vous dis ça? Et c'est des cultivateurs aussi. Pourquoi je vous dis ça? C'est que l'image qu'on a d'un cultivateur ou d'un agriculteur, c'est vraiment pas quelque chose de glamour en fait. C'est un travail totalement un peu subalterne en fait. C'est un travail où personne ne veut devenir agriculteur, je pense. On fait tous des études, des gens sont peut-être en train de passer le bac. Est-ce que vous voulez devenir agriculteur? Je pense que si on fait un sondage, quasiment personne ne veut devenir agriculteur. C'est des tâches besogneuses, c'est des tâches répétitives, des tâches où personne ne voit ce qui se passe. Vous travaillez dans votre coin et personne ne voit le fruit de votre travail, etc. Vous travaillez à la sueur de votre front, c'est fatigant. Il n'y a pas de gloire, en fait. Il n'y a pas de gloire à être agriculteur, je pense. Quand tout se présente, si je dis, ouais, je suis agriculteur, je pense que personne ne. Il n'y a aucune estime de la part des autres. Et je pense que ça aussi, c'est ce que nous aussi, nous sommes appelés à vivre des fois dans notre ministère. Combien de fois on travaille dans notre ministère et les choses ne sont pas. Ça apporte pas forcément du fruit tout de suite. Les choses sont difficiles. On est obligé de mettre de l'huile de coude et de travailler dur, de persévérer. Par exemple, l'église de Saint-Maur, peut-être, on regarde notre culte français, ça fait 10 ans qu'on est implanté. Est-ce qu'on a énormément grandi? Non, je ne pense pas. Est-ce qu'on y travaille? Oui, je pense. Mais les fruits ne sont pas forcément visibles. Et la quantité de travail demandée est importante. Mais même si ces choses-là sont dures, même si le travail auprès de Dieu est dur, ne nous décourageons pas parce que nous serons les premiers à récolter les fruits. Les fruits vont arriver, nous ne savons pas quand, nous ne savons pas à quel moment, nous ne savons pas en quelle quantité, mais les fruits pourront être récoltés. Et nous aussi, nous pourrons en jouir de ces fruits-là. Gardons cette promesse. Nous aussi, notre travail pourrait être laborieux ici. Personne ne pourra des fois reconnaître notre travail. Mais nous savons et nous avons la conviction que nous faisons le travail de Dieu. Que ça prendra peut-être du temps, mais les fruits seront présents et nous pourrons jouir aussi. Donc voilà ces quatre identités, entre guillemets, l'enseignant qui transmet et qui est exemplaire, le soldat qui s'engage et qui veut plaire à son général, l'athlète qui court en suivant les règles, et le cultivateur. Et à travers toutes ces images, et à travers toutes ces vérités aussi qu'on a vues, je voudrais vraiment qu'à la suite de ce passage, on puisse vraiment se poser les questions. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui par rapport à ces profils de personnages, par rapport à l'enseignant, par rapport au soldat, par rapport à l'athlète, par rapport au cultivateur? Est-ce que je suis engagé aussi à travailler la parole? Est-ce que je suis engagé aussi à la transmettre? Est-ce que je suis engagé aussi à vouloir coûte que coûte plaire à Dieu? Et frères et sœurs, si aujourd'hui, peut-être dans certains de ces domaines-là, vous dites, ah mais je suis pas du tout à côté de la, enfin je suis totalement à côté de la plaque, et je réponds pas du tout à ces recommandations-là, à ces critères-là, vous êtes peut-être comme Timothée en fait. Comme Timothée au chapitre 1. Et Paul lui demande de revenir à la grâce de Jésus-Christ. La première phase, c'est de se rendre compte de notre situation. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Notre relation avec Dieu. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui avec ces quatre personnages? Soyons honnêtes envers nous-mêmes. Demandons à Dieu de nous éclairer et de nous parler pour savoir où est-ce que nous en sommes. Et ayons confiance que Dieu va travailler en nous pour nous transformer, que Dieu va pouvoir être la source de nos efforts pour pouvoir arriver à ces modèles-là. Ce message est vraiment un message d'encouragement pour vous et pour nous, de la même manière que c'était un message d'encouragement pour Timothée. que vraiment nous puissions prendre courage, que nous puissions nous fortifier, parce que nous sommes tous des cultivateurs, nous sommes tous des enseignants, nous sommes tous des athlètes, nous sommes tous des soldats dans un domaine de notre vie. Nous sommes appelés à nous rappeler de la grâce du Seigneur Jésus-Christ qui nous permet de vivre notre relation avec lui et de donner aussi, et qu'on va pouvoir, avec Dieu et en Dieu, pouvoir avancer pour œuvrer pour notre Seigneur ici sur terre. Je vous invite à prier pour terminer. Père, on veut te remercier pour ta parole, Seigneur. On veut te remercier parce que, encore une fois, elle nous enseigne. Mais Seigneur, on ne veut pas être des enseignants oublieux, Seigneur. On veut que vraiment ta parole et ton enseignement puissent toucher notre cœur et nous montrer tels que nous sommes, Seigneur. On l'a lu dans Jacques. Si nous nous voyons tels que nous sommes et que nous ne faisons rien, Seigneur, c'est comme si aussi nous péchions. Et Seigneur, on veut être agréable, Seigneur. On veut se reposer sur ta grâce, Seigneur. De la manière que ta grâce a transformé Timothée, Seigneur, et il a permis d'être à la hauteur, Seigneur, et de diriger l'église d'Éphèse, Seigneur, on sait que ta grâce est la même aussi pour nous. Tu connais la situation de chacun de mes frères et sœurs ici présents, Seigneur. Les combats de chacun, Seigneur. Les doutes de chacun, Seigneur, dans le ministère, dans la vie, Seigneur. Peut-être certaines personnes s'attendent à ce que tu fasses des choses. Ils s'attendent à ce que ils voient ta main, Seigneur, dans un domaine précis de leur vie, Seigneur. Et parce que tu ne réponds pas encore, Seigneur, ils se posent des questions, ils sont en doute comme Timothée, Seigneur, mais vraiment que nous puissions revenir à toi, Seigneur. Regardez à quel point nous ne pouvons pas faire les choses, et toi à quel point, Seigneur, tu es tout-puissant, et tu réalises des choses impossibles, Seigneur. Et Père, on veut se raccrocher à cette grâce, Seigneur, on veut se fortifier, et on veut demander que tu travailles nos cœurs, Seigneur, pour que nous puissions, nous aussi, avancer comme des soldats, Seigneur, comme des cultivateurs, Seigneur, comme des enseignants, Seigneur, comme des athlètes, Seigneur. Montre-nous, Seigneur, ce que tu veux dans nos vies, et on se repose sur ta grâce, Seigneur, pour être transformé. Je te prie en son nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.